particulièrement aimé de Jean-Paul II. Je vais commencer en citant ce qu'il a dit à son sujet lors de la canonisation. C'était un grand jour, le 11 octobre 1998, donc sur la place Saint-Pierre. Voici ce que disait Jean-Paul II dans son homélie. « Pendant longtemps, elle vécut l'expérience de la recherche. Son esprit ne se lassa pas de chercher et son cœur d'espérer. Elle parcourut le chemin difficile de la philosophie avec une ardeur passionnée et à la fin, elle fut récompensée. Elle conquit la vérité, ou plutôt, elle en fut conquise. » Alors nous allons essayer de retracer tout simplement, hein, ce ne sera pas compliqué, les grandes étapes de cette longue conquête. Imaginons tout d'abord une petite fille aux grands yeux noirs qui naît et grandit en Allemagne à la fin du 19e siècle, puisqu'elle est née en 1891, dans une famille juive. Edith est la dernière de 7 enfants et elle n'a pas 3 ans lorsque son papa meurt brusquement. À 5 ans, elle refuse mordicus d'aller au jardin d'enfants. C'est un peu l'équivalent de la maternelle pour les petits Allemands. Et elle demande comme unique cadeau d'anniversaire pour ses 6 ans qu'on lui offre enfin la possibilité d'aller à la grande école. Alors, faut-il voir dans cette réaction le signe d'une petite fille particulièrement capricieuse ou vexée de ne pas pouvoir suivre les grands? Eh bien non. Ce qui se dessine déjà chez cet enfant, c'est une soif ardente de connaître, de comprendre. Aussi, elle devient très vite une excellente élève, mais dénuée d'ambition. Elle déteste la distribution des prix, elle n'aime pas être mise en avant, et elle dira avoir compris, toute petite, qu'il était, je cite, « plus important d'être bon que d'être intelligent ». Et ce qui l'a motivée, finalement, c'était de pouvoir donner une nourriture à son esprit bouillonnant. Mais voilà qu'à 14 ans, coup de théâtre, elle demande à arrêter l'école. Pourquoi? Eh bien parce que l'école ne répond pas aux questions qu'elle se pose sur le sens profond de la vie. Donc elle part aider sa sœur aînée, qui est déjà mariée et mère de famille, pendant 8 mois à Hambourg. Et à la même époque, donc en pleine adolescence, elle cesse de prier et elle déclare qu'elle n'a plus la foi juive qu'elle avait reçue dans sa famille. Il fallait en effet qu'elle découvre Dieu par elle-même. Elle ne pouvait pas accepter de croire par habitude ou par tradition familiale. Alors, comme elle n'a pas réellement rencontré Dieu, elle ne veut pas faire semblant. Mais cependant, elle garde intact l'idéal moral inculqué par sa maman, qui avait une foi juive très solide, et elle ne perdra jamais sa grande droiture. Alors, de retour au lycée, un an plus tard, elle passe son bac, puis elle commence des études. Elle va étudier l'histoire, l'allemand, mais surtout la philosophie. Et elle choisit d'aller étudier près du philosophe Husserl. On en a un tout petit peu parlé hier. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la philosophie. Alors. Qui est l'auteur d'une nouvelle méthode philosophique qui s'appelle la phénoménologie. Et cette méthode séduit Edith par son objectivité, puisqu'elle consiste à rechercher la vérité de l'être à travers les différentes manifestations de l'être qu'on appelle les phénomènes. Et au-delà de toute idée préconçue, de tout a priori. Alors, elle se lance avec passion dans la recherche philosophique. Elle devient l'assistante du CERL et elle prépare activement son doctorat en philosophie. Et à travers tout cela, ce n'est pas le but d'obtenir des diplômes, mais c'est vraiment la recherche de la vérité qui l'anime. Elle dira plus tard... La soif de vérité était mon unique prière. Au milieu de cette quête ardente, elle connaît des moments très éprouvants, car malgré tous ses efforts, toutes ses études et ses réflexions, Elle réalise qu'il y a des choses qui lui échappent, qu'elle n'arrive pas à comprendre, et elle fait ainsi l'expérience des limites de son intelligence humaine. Force lui est de constater que la seule raison ne peut pas tout expliquer, et que seule une lumière venue d'ailleurs permet d'accéder à la pleine vérité. Mais cette lumière ne l'a pas encore touchée, et il lui arrive même parfois, en plein désarroi, et c'est là où on rejoint ce que disait frère Augustin à propos de saint Augustin, il lui arrive de souhaiter une mort accidentelle en traversant la rue par exemple, ou en faisant une excursion en montagne, tellement son cœur et son esprit à ce moment-là sont douloureusement insatisfaits et tourmentés. Elle a l'impression de se heurter vraiment à un mur. Et Dieu va à ce moment-là agir par petites touches pour la conduire jusqu'à lui. Et cela de différentes manières, à travers des lectures, à travers aussi des rencontres, et notamment celle d'une simple femme dans la cathédrale de Francfort, où Edith était entrée simplement par intérêt culturel. Et cette femme a laissé pressentir à Edith quelque chose de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, à la manière dont elle l'a prié devant le tabernacle, au retour du marché, avec son sac à provisions, et elle a pressenti qu'il y avait un contact qui s'établissait entre cette simple femme et le Seigneur qui était là, et cela l'avait beaucoup touchée, interpellée. Et puis une autre rencontre qui va être encore plus déterminante, c'est celle de son amie Anna Reynard, dont le mari Adolphe Reynard était aussi un compagnon du CERL, un phénoménologue. Et il est mort en 1917 sur le front. Et Edith était très angoissée à la perspective de retrouver sa jeune veuve Anna. Elle ne savait pas bien comment elle allait pouvoir l'aborder et la réconforter. Et en fait, c'est elle, Anna, qui venait de se convertir, devenue protestante avec son mari Adolphe avant qu'il ne meure. C'est elle qui va donner à Edith une bouleversante leçon d'espérance chrétienne. Elle dira plus tard, « Ce fut ma première rencontre avec la croix, avec cette force divine qu'elle confère à ceux qui la portent. » Pour la première fois, l'Église, née de la passion du Christ et victorieuse de la mort, m'apparut visiblement. Au moment même, mon incrédulité céda. Le judaïsme pâlit à mes yeux, tandis que la lumière du Christ se levait en mon cœur. La lumière du Christ saisit dans le mystère de la croix. Mais il faudra attendre encore un petit peu pour l'illumination finale, même si déjà elle dit que son incrédulité céda. Il fallait encore que vraiment sa raison humaine se laisse totalement vaincre et qu'elle accepte de dépendre complètement de Dieu, de se soumettre à Dieu. Et cela demande toujours cette humilité intellectuelle dont on parlait aussi à propos de saint Augustin. Alors c'est seulement durant l'été 1921 que la Providence va mettre dans les mains d'Edith la vie de sainte Thérèse d'Avila. Elle lit ce livre, c'est son autobiographie, elle la lit d'une seule traite, toute la nuit, complètement prise, passionnée par ce qu'elle lit. Et lorsqu'elle referme le livre, le jour se lève à l'extérieur, mais il se lève aussi dans son cœur, parce qu'elle s'écrit « Là est la vérité ». Et à travers l'expérience intérieure de sainte Thérèse, c'est-à-dire celle d'une vraie vie en Dieu, eh bien Edith comprend que la vérité qu'elle a tant cherchée, c'est quelqu'un, c'est une personne, et que cette personne est amour. Et à ce moment-là, sans aucune hésitation, elle se donne totalement à Jésus. Elle reçoit le baptême quelques mois plus tard, le 1er janvier 1922, et elle désire entrer au Carmel. Mais ce désir, elle ne pourra le réaliser qu'en 1933. En attendant, elle va mettre à profit ses années de vie dans le monde pour rendre témoignage à cette vérité découverte en la personne de Jésus. Et ceci à travers la recherche philosophique. En particulier, elle traduit et elle commente saint Thomas, notamment le traité De Veritate. Mais elle donne aussi des conférences dans différentes villes d'Allemagne et d'Europe. Et elle exerce aussi l'enseignement. Bref, à travers tout cela, ce qu'elle cherche, comme elle le dira elle-même, c'est de pouvoir donner sa petite, je cite, sa petite et simple vérité, comment l'on peut commencer à vivre en tenant la main du Seigneur. C'est ça, la vérité qu'elle veut transmettre, comment commencer à vivre en tenant la main du Seigneur. Et pour lui, pour le Seigneur, le moment venu, elle renonce à tout, aussi bien à ses succès intellectuels qu'à l'affection des siens, puisque sa famille, et surtout sa vieille maman, juive fidèle, est terriblement blessée par sa conversion et son départ au Carmel. C'était très douloureux. Mais pour Edith, il n'y a pas de demi-mesure. Si Jésus est la vérité qu'elle a si longtemps cherchée, elle ne peut plus vivre que pour lui, et donc consumer sa vie dans le silence et la prière pour obtenir à d'autres les mêmes grâces de lumière. Et en même temps, ses supérieurs lui permettront de continuer à écrire et de continuer une certaine recherche philosophique. Donc ce ne sera pas uniquement par le silence et la prière qu'elle pourra obtenir aux autres des grâces de lumière. Mais pour elle, c'était quand même l'essentiel. Et elle est rentrée au Carmel pour cela. Et elle pense dans sa prière notamment à son peuple juif d'origine et dans l'ardent désir que lui aussi reconnaisse dans le Christ le chemin, la vérité et la vie. Elle demandera à sa prière, à sa prieure en 1939, la possibilité de pouvoir, comme elle le dira, s'offrir en holocauste au cœur de Jésus, en souhaitant que sa vie et sa mort permettent à Jésus d'être accueilli par le sien, pour reprendre ce que dit saint Jean dans son prologue, chapitre 1, verset 11. Permettre à Jésus d'être accueilli par les siens, par son peuple. Et nous savons que Dieu a agréé son offrande, puisque le 9 août 1942, celle qui était devenue au Carmel sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, je ne l'ai pas dit, donc le 9 août 1942, elle est morte dans le camp d'Auschwitz en partageant la douleur de son peuple humilié, mais, et c'est ça qui compte, en unissant cette douleur à la croix de Jésus et en sachant que la croix de Jésus est plus forte que les ténèbres de l'erreur, du mensonge et de la haine. Donc, on peut dire en conclusion que toute la vie d'Edith Stein, sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, est une illustration de ce qu'elle écrivit un jour. Celui qui cherche la vérité cherche Dieu, qu'il en soit conscient ou non. C'est pourquoi nous-mêmes, maintenant, n'ayons pas peur d'encourager nos contemporains, même s'ils semblent allergiques à la foi, à chercher passionnément la vérité, sans cesse, sans se lasser. Et en même temps, confions-les à sainte Edith, confions-nous tous à elle, en repensant à ce que disait Jean-Paul II le jour de sa canonisation, autre passage de l'homélie, que la nouvelle sainte soit pour vous un exemple de vie spirituelle et intellectuelle, qu'elle vous aide à chercher Dieu en vous et à vous chercher en Dieu, pour trouver celui qui est la vérité et la source du bonheur éternel.